Mandrin. Deuxième partie, chapitre 14. La prisonnière. Quelle n'avait pas été la stupeur de Jeanne d'Estenave lorsqu'en reprenant connaissance, elle s'était retrouvée au fond d'un cachot, en un costume noir de prisonnière, complété par un petit bonnet blanc serré aux tempes, qui ajoutait encore à l'aspect tragique de son visage douloureusement émacié. Tout d'abord, elle n'avait pas compris. Pendant plusieurs jours, n'avait-elle pas été comme morte? Et, promenant autour d'elle un regard qui, peu à peu, commençait à reprendre connaissance des réalités, elle reprit, promptement fixée par le décor sinistre qui l'environnait et la livrée infamante dont elle était revêtue, « Je suis prisonnière. » Et tout de suite elle ajouta, « Je comprends, c'est l'exempt pistolet qui, après m'avoir retiré du torrent, m'a amené ici, sans doute est-ce pour me torturer encore. » L'infortuné Thiénot ne se trompait pas. Pistolet, dont l'esprit était fertile en ruses de toutes sortes, venait, en quittant le château des Aigles, d'élaborer un plan véritablement infernal, grâce auquel il se flattait de souffler au colonel Lamorlière, qu'il s'était pris à détester cordialement, la gloire d'une arrestation qu'il tenait à se réserver à lui seul. Maintenant, il allait agir. Tout d'abord, il fut s'enfermer dans la petite chambre qu'il occupait en une modeste hôtellerie de Grenoble. Il y demeura plusieurs heures, qu'il employa à des travaux d'écriture assez compliqués. Son mystérieux travail terminé, il se rendit à la prison de Grenoble. « Comment va notre prisonnière ? » demanda-t-il au guichetier en chef. « Mieux ? » répliqua celui-ci. « Hier, elle n'avait plus de fièvre, et bien qu'elle fût encore dans un état de prostration absolue, je l'ai fait transporter, suivant vos instructions, dans une cellule où elle n'a pas tardé à revenir entièrement à la vie. Tout à l'heure, je l'ai observée à travers le guichet. Elle était assise sur son escabeau, la tête entre les mains, en une attitude d'accablement profond. Elle n'avait pas touché aux aliments que j'avais fait déposer près d'elle. Aussi, doit-elle être dans un état de faiblesse extrême. « C'est bien, » ponctuait l'homme noir, auquel ses renseignements semblaient donner une entière satisfaction. Et il ajouta, « Conduisez-moi près d'elle. » Le geôlier précéda l'exempt à travers un dédale de couloirs humides et sombres. Le guichetier fit glisser un énorme verrou qui barrait entièrement une porte en chêne massif bardée de solides ferrures. Et, prenant au trousseau qu'il portait à sa ceinture une énorme clé, il l'introduisit dans une serrure à trèfle. La porte grinça sur ses gonds, et Pistolet, après avoir recommandé au geôlier de l'attendre au dehors, pénétra dans la cellule. Sa présence ne parut causer aucun étonnement à Jeanne d'Estenave. « Je vous attendais, » murmura-t-elle d'un air las mais résigné. « J'ai appris tout à l'heure, » attaquait le policier, « que votre santé s'était améliorée et je me suis empressé de vous rendre visite. « Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir ?» reprochait Thiénot d'une voix lointaine. Pistolet répliquait d'un ton côteleux. « Parce que je voulais vous sauver, et parce que je veux vous sauver encore. Je ne vous crois pas. Pourquoi ? Si vous aviez eu pitié de moi, vous ne m'auriez pas fait enfermer dans cette prison. Qui vous dit ? Insinuait effrontément l'exempt. Oui, qui vous dit que c'est moi qui vous y ai conduite ? Jeanne d'Estenave eut un geste de doute qui prouvait qu'elle n'avait aucune confiance dans la parole de son interlocuteur. Sans se démonter, celui-ci poursuivait. « Laissez-moi vous raconter comment les choses se sont passées. À peine étiez-vous jeté dans le torrent que je m'y précipitais à votre suite, et non sans peine, je vous ramenais sur la rive. » Mentant avec un aplomb imperturbable, le limier du marquis d'Argenson poursuivait. « Malheureusement, je n'étais pas seul. » Monsieur le fermier général Bourré d'Érigny, auquel j'avais donné rendez-vous en ces lieux pour pour lui rendre compte de mon enquête au château de Bonrepos, se tenait caché derrière un buisson. Il m'aida à vous transporter dans une chaumière voisine où vous reçûtes les premiers soins. Comme vous ne repreniez pas connaissance, je proposais que l'on envoyât chercher un médecin. Monsieur d'Hérigny s'y opposa et me donna l'ordre de vous transférer immédiatement à cette prison de Grenoble. Bien que je désirasse vivement vous donner un autre asile, je dus m'incliner devant la volonté de monsieur le fermier général, puisqu'il représente ici mon maître direct, monsieur le lieutenant de police. Et avec un cynisme effroyable qui s'enveloppait de la plus hypocrite des bienveillances, l'exempt conclut « Ma pauvre enfant, je vous ai dit la vérité, rien que la vérité. Mais très franchement, je ne tiens nullement à vous perdre. Au contraire, je ne demande même qu'à vous sauver. Toutefois, il faut que vous me donniez votre aide. Et voilà pourquoi je suis devant vous. » Jeanne d'Estenave, fixant le policier avec un souverain mépris, reprenait. « Et vous venez de nouveau me demander, en échange de la liberté, de vous livrer Mandrin ? Pas du tout. Alors, des événements sensationnels se sont passés tous ces jours-ci. Vous n'ignoriez pas que Nicole Malissée était partie pour Fontainebleau, demander au roi la grâce de Mandrin. Oui, oui, je le savais. Eh bien, elle est revenue avec la dite grâce. C'est impossible. Vous ne me croyez pas ? Ricanait l'exempt. Eh bien, lisez ceci. Et il tendit à Jeanne le document suivant qu'il avait pris soin dans la matinée de fabriquer lui-même. Sa Majesté Louis XV, roi de France et de Navarre, ayant fait grâce au sieur Mandrin, nous mandons au sieur Trollon que sa mission en Dauphiné est terminée, et nous lui enjoignons de regagner la capitale par les moyens les plus rapides et les voies les plus sûres. Signé Marquis d'Argenson, lieutenant de police. Thiénot le berger n'avait aucune raison de suspecter cet ordre. Il portait tous les en-têtes, cachés et sots, capables de lui fournir une autorité indiscutable. Aussi, son premier cri fut-il tout d'allégresse. « Mandrin, gracié ! Quel bonheur !» Mais soudain son visage se rembrunit. Une pensée angoissante venait de lui traverser l'esprit, et elle s'écria « A-t-il accepté sa grâce ?»« Parbleu ! » déclarait Pistolet. « Cela me surprend.
Pourquoi ?
Je l'ai entendu répéter souvent que rien, sinon la mort, ne l'empêcherait de faire la guerre aux fermiers généraux. Et voilà pourquoi je suis étonné qu'il se soit soumis si facilement à l'autorité royale. Vous oubliez une chose, ma chère enfant. C'est que lorsque Mandrin tenait ses propos, il n'était pas encore amoureux. Jeanne d'Estenave eut un soupir. L'homme noir venait tout à coup de raviver sa blessure. Torturée par la grande douleur d'amour qui la rongeait, Jeanne d'Estenave reprenait. « Ce qui me paraît le plus extraordinaire, c'est que Mandrin ait accepté sa grâce sans réclamer aussi celle de ses compagnons.
« Si vous croyez qu'il pense à eux ?
Cependant, l'amour, ma belle, a fait sombrer de plus puissants cerveaux que le sien et gangrener des cœurs plus généreux que celui qui bat dans sa poitrine. Et moi qui le croyais si supérieur aux autres, parce que vous le voyez à travers l'auréole de sa gloire et le mirage de votre amour, voyez comme il vous a vous-même abandonné.
Peut-être ignore-t-il que je suis prisonnière.
Oh, c'est même certain, laissait échapper négligemment Pistolet, car votre arrestation est demeurée secrète. À ces mots, une grande, une suprême espérance éclaira l'âme endeuillée de la malheureuse. Mandrin, se dit-elle, peut dédaigner, mépriser, haïr Jeanne d'Estenave, mais il ne peut pas oublier, abandonner, trahir Thiénot le berger, et tombant dans le piège vraiment infernal que lui tendait le policier, elle s'écria « Ne pourriez-vous faire savoir à Mandrin
que je suis prisonnière ?
Oh, très facilement. Mais je doute qu'il donne suite à ma démarche.
D'abord, parce qu'il craindrait, bien à tort, je vous l'assure, que je ne cherchasse à tirer contre lui une vengeance personnelle.
Et retournant le fer dans la plaie, il ajouta « Et puis, il est tellement amoureux !»
Alors, elle se laissa tomber sur son grabat de prisonnière, les poings serrés, l'œil hagard, l'écume aux lèvres.
Pistolet comprit que l'ardente jalousie qu'il avait su si perfidement réveiller en elle, en l'emportant sur l'affreux désespoir qui lui avait fait vouloir la mort, lui inspirait, en même temps que la révolte devant le sacrifice, un désir irraisonné de vivre. Et, s'emparant de sa main glacée, il fit
« Allons, je vois que vous ne serez pas mécontente de reconquérir votre liberté, et je m'en félicite, car j'estime qu'il serait profondément injuste que vous expiez les crimes des autres. D'autre part, je crois assez connaître Mandrin pour être sûr que, si aveuglé soit-il par la passion que lui a inspirée cette Nicole, il se refusera à vous laisser porter seul le poids des responsabilités qu'il a encourues. »
Et, tout en tirant de sa poche un écritoire, « Écrivez ce que je vais vous dicter, » lui ordonna-t-il. Machinalement, Jeanne d'Estenave traça sur le papier ces mots que le policier détachait avec une lenteur calculée.
« Je suis au secret dans la prison de Grenoble. J'apprends que je dois comparaître incessamment devant le présidial de cette ville. Je serai certainement condamné à mort. Ne tenterez-vous rien pour me délivrer ?»
Pistolet, qui lisait par-dessus son épaule, ajouta
« Maintenant, signé Thiénot. »
Jeanne signa. Pistolet voulut lui prendre le billet. Mais, au moment où elle allait le lui remettre, elle fit
« Ce billet, qui le lui fera parvenir ?»«
Moi ?»
Mais la jeune femme éloignait toujours le papier de la main qui se tendait vers elle. Par une sorte de divination, elle venait d'avoir, sinon la certitude, mais tout au moins le soupçon que Pistolet venait de lui jouer une infâme comédie.
« Eh bien, qu'attendez-vous ? » interrogea l'homme noir.
« Je ne vous remettrai pas cette lettre, » répliqua Thiénot, en la froissant dans sa main.
« Pourquoi ? » ?»«
Parce que, plus j'y songe, plus je me dis que Mandrin n'a pas pu accepter sa grâce, et plus je crois que vous cherchez de plus en plus à vous servir de moi pour l'attirer dans un nouveau guet-apens. »
À l'expression de rage qui crispa aussitôt le visage de l'exempt, Jeanne d'Estenave s'écriait, en se dressant toute frémissante d'indignation et de colère, « J'ai raison, misérable, j'ai raison !»«
Et quand cela serait ?» s'exaspérait le sieur Trollon.
« Mandrin ne t'a-t-il pas chassé, sacrifié à une autre femme qu'il aime ?»«
Vous me l'avez déjà dit, et je vous répondrai aujourd'hui encore ce que je vous ai répondu chez Bourré d'Érigny et au château de Bon Repos. Je ne trahirai jamais Mandrin. »
Et, à bout, la malheureuse s'écroula sur le grabat.
Pistolet en profita pour lui arracher la lettre. Mais, bondissant sur lui comme une lionne, elle parvint à lui reprendre le papier et à le déchirer en morceaux.
Au comble de la fureur, l'homme noir la rejeta brutalement à terre.
« Tu l'as voulu, gueuse !» grinça-t-il. « Tu mourras !»
Et Pistolet sortit du cachot. Tandis que le guichetier en chef refermait le verrou et faisait manœuvrer la clé dans la serrure, l'homme noir grommela.
« Oh, quelle idée !»
Et l'œil étincelant d'une joie infernale, il s'écria
« Maintenant, je suis sûr de la victoire !»
Oh, 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 oh.